France Inter, il est 8h. Le journal, bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Frédéric, bienvenue à tous à la une ce matin quand la SNCF sous-traite la vente de ses billets de train aux buralistes. Expérimentation lancée dans 5 départements pour en finir avec le désert des guichets et les interminables files d'attente dans ceux qui restent ouverts. Guillaume Pépi promet d'ailleurs de mettre plus de personnel dans les gares parisiennes. Le PDG d'Orange va-t-il garder son poste? Stéphane Richard attend sa condamnation avec Bernard Tapie aujourd'hui dans l'affaire de l'arbitrage Adidas. Son conseil d'administration n'a pas du tout envie de le voir partir. Son ancienne patronne, c'est Christine Lagarde qui vient d'être nommée à la Banque Centrale Européenne. Quelle politique va-t-elle mener? C'est l'une des questions que vous poserez à votre invité, Frédéric.
Daniel Cohen, professeur d'économie à l'École Normale Supérieure. Y a-t-il vraiment eu un acte 2 du quinquennat? Les taux négatifs, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'économie? Et donc, Christine Lagarde, très attendue à la Banque Centrale Européenne. Nous attendons vos questions sur France Inter et au 01 45 24 7000.
SOS algue verte, elle prolifère en Bretagne en ce moment avec des fermetures de plages à la clé et de sérieux doutes sur la mort d'un jeune ostréiculteur en baie de Morlaix. Dans ce journal également, la bataille capitale de Paris. 3 marcheurs se disputeront l'investiture du parti aujourd'hui. Champagne à Épernay. Julien Alaphilippe a fêté son maillot jaune hier soir. Rien ne va plus du tout, on va le voir, entre le PSG et Neymar. Et puis nous serons à Avignon pour un Blanche-Neige très loin du comte de Grimm.
France Inter.
Et non, tout le monde n'achète pas tout sur Internet. On a parfois besoin de voir des gens à la place des écrans. Mais des gens, il y en a de moins en moins pour nous vendre des billets SNCF, par exemple. Alors qu'un sur cinq est toujours acheté au guichet quand il en reste. Et bientôt, chez le buraliste, la SNCF vient de signer un partenariat avec leur confédération pour une expérimentation lancée avant la fin de l'été en Bourgogne, Franche-Comté, dans le Grand Est, les Pays de la Loire, en Normandie et en PACA. Des agents des chemins de fer viennent d'ici là former les buralistes. Raphaël Ebenstein.
Une tablette, une petite imprimante et au final une sorte de facturette de carte bleue sur laquelle sont inscrits les noms et prénoms du passager et où figure un QR code que le contrôleur SNCF n'aura plus qu'à scanner à bord du train, TGV ou TER. Voilà à quoi ressemblera le billet acheté chez un buraliste. L'idée est vraiment que le système soit le plus simple possible. Eric Stey, directeur marketing TER à la SNCF.
C'est les mêmes technologies que l'assistant SNCF. En fait, vous rentrez votre gare de départ, votre gare d'arrivée, vous sélectionnez une date, vous regardez si le client a une carte. Et puis l'appareil va chercher les tarifs les plus intéressants.
Et s'il n'y a aucun objectif sur le nombre de buralistes qui pourraient s'équiper, la demande est déjà là, à en croire Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes.
Dans mon établissement, même à l'Escar, dans les Pyrénées-Atlantiques, certains clients sont venus me demander, puisque je suis en face d'une gare, sont venus me demander quand c'est qu'on allait vendre des tickets. Et ça demande un petit peu d'expérimentation, et on déploiera dès 2020 en fonction du calendrier qu'on se fixera.
En attendant donc, premier test dès la fin juillet dans 5 régions et sans doute une centaine de bureaux de tabac.
Alors Paris ne fait pas partie de la zone d'expérimentation, pourtant on a tous vu ou vécu ces interminables queues au guichet des grandes gares parisiennes, plus de temps passé dans la file d'attente que dans le train parfois. Eh bien le patron de la SNCF fait son mea culpa, Guillaume Pépi qui annonce plus de vendeurs à Paris.
Ces dernières semaines, nous avons été quelque peu débordés dans les très grandes gares parisiennes. D'abord parce qu'il y avait plus de clients que prévu, et ensuite parce qu'après la canicule, après les orages, beaucoup de nos clients sont venus au guichet pour échanger leurs titres, pour modifier leurs demandes, pour se faire rembourser, et ça a entraîné un afflux. C'est notre erreur, nous l'avons reconnue, et surtout nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour augmenter le nombre de vendeurs. 150 vendeurs de plus dans les gares parisiennes. Nous continuons à construire des guichets dans les gares. Les nouvelles gares que nous ouvrons, la gare de Rennes il y a quelques jours, la gare du Nord demain, la gare de Nantes, la gare de Toulouse, il y a des espaces de vente avec des vendeurs SNCF.
Ça y est, toutes les copies du bac ont été rendues et les derniers candidats concernés par la grève des correcteurs obtiendront leurs notes avant 10h ce matin selon le ministère de l'Éducation. Certains seront donc exemptés des oraux de rattrapage quand d'autres seront finalement convoqués.
Bernard Tapie et Stéphane Richard seront-ils condamnés pour escroquerie et détournement de fonds publics?
C'est ce matin que le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement sur l'arbitrage Adidas et les 403 millions d'euros attribués à Tapie. Lui n'y sera pas à cause de son état de santé. 5 ans de prison ferme ont été été requis contre lui au procès. 3 ans, dont 1,5 avec sursis contre Stéphane Richard. Pardonnez-moi, Stéphane Richard, l'actuel patron d'Orange, à l'époque directeur de cabinet de Christine Lagarde. C'est sans doute lui qui a le plus à perdre. Fabien Cazot, s'il est condamné, il a promis de remettre son mandat en jeu.
En cas de condamnation, c'est le conseil d'administration d'Orange qui aura à trancher le cas Stéphane Richard. Pour ce qui est des représentants de l'État actionnaire, la ligne semble claire. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a dit l'an dernier. Impossible de maintenir le PDG à son poste s'il devait être condamné. Néanmoins, en coulisses, du côté de la direction, mais aussi de certains administrateurs, on espère faire changer d'avis les représentants de l'État. Car vu de l'interne, Stéphane Richard reste le patron qui aura permis à l'ancien France Télécom de tourner la page de la crise des suicides. D'un point de vue industriel et commercial, il a su faire face à la guerre des prix dans les télécoms et à l'émergence de Free. D'intenses discussions ont donc eu lieu ces derniers jours entre Orange, Bercy et même l'Elysée. Dans le cas où l'État se montrerait inflexible, le conseil d'administration espère au moins qu'un délai suffisant sera accordé à l'entreprise, peut-être quelques mois, pour se trouver un nouveau dirigeant.
Lui va pouvoir être poursuivi par la justice. Le nonce apostolique de France, ambassadeur du Vatican, ne bénéficie plus de l'immunité du Saint-Siège, levée hier, ce qui est inédit alors que Luigi Ventura fait l'objet de plaintes pour agression sexuelle. Retour à Téhéran pour le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, chargé de faire retomber la tension en pleine crise du nucléaire, ce dont le président a parlé avec Donald Trump au téléphone hier. Face aux sanctions américaines, l'Iran a bien commencé à enrichir son uranium en infraction avec l'accord de 2015, mais très loin des taux qui permettraient de fabriquer une bombe. À Hong Kong, la chef du gouvernement pro-Pékin enterre le projet de loi qui a déclenché des manifestations monstres ces dernières semaines. Le texte sur les extraditions vers la Chine est mort, a déclaré Carrie Lam, qui accepte de rencontrer les étudiants contestataires sans condition préalable.
8h07, vous écoutez France Inter et le journal de Florence Paracuelos quand Donald Trump parle d'environnement.
Ça n'est pas pour évoquer le réchauffement et trouver tout à coup l'accord de Paris formidable. Non, quand Donald Trump parle environnement comme hier à Washington, c'est pour dire que tout va pour le mieux en Amérique et qu'il ne faut pas, Loïc Loury, compter sur lui pour sauver la planète.
Pour entendre parler du changement climatique, il faudra repasser. Le président américain, pas une seule fois, n'y aura fait mention, pas plus que ses invités. Car s'il n'y a bien qu'une planète, affirme Donald Trump, il n'y a aussi qu'une seule Amérique et c'est à elle qu'il pense d'abord.
Dès le premier jour, mon administration en a fait une priorité pour que les États-Unis aient l'un des airs les plus purs, l'une des eaux les plus propres. C'est ce que nous faisons, c'est ce sur quoi nous travaillons si dur.
L'écologie très bien, mais pas au prix de la croissance américaine ou des emplois. De quoi justifier, selon lui, son départ de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi le détricotage des garde-fous de Barack Obama pour protéger l'environnement.
Pendant des années, les politiciens ont dit aux Américains qu'une économie forte et qu'un secteur de l'énergie vigoureux n'était pas compatible avec un environnement sain. Nous sommes exactement en train de prouver le contraire.
Pour appuyer son fameux leadership, Donald Trump était venu avec du renfort, et notamment Andrew Wheeler, qui dirige l'Agence américaine de protection de l'environnement.
La vérité, c'est que quand d'autres pays ont besoin d'aide pour purifier leur air, leur eau, leur sol, ils se tournent vers nous. L'Amérique est tout ce qu'il y a de mieux en matière de protection environnementale.
Les propos d'un climato-sceptique affirmé, également ancien lobbyiste, proche de l'industrie du charbon. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, pour prendre un bon bol d'air dans certaines baies des Côtes d'Armor ou du Finistère, il faudra repasser à cause des nitrates que déversent les rivières. Elles sont recouvertes d'algues vertes qui se décomposent avec la chaleur, si bien que l'association Halte aux marées vertes s'interroge sur la mort d'un jeune ostréiculteur samedi en baie de Morlaix. Elle est donc allée mesurer les taux de sulfure d'hydrogène sur place, comme l'explique André Olivreau, porte-parole de l'association.
Des mesures ont été réalisées hier soir sur le lieu même du drame. On n'a pas pu approcher, mais à côté, on a pu mesurer jusqu'à 28 ppm d'H2S. Donc, tout concourt à penser qu'il y a eu une intoxication liée à la production de gaz, liée à la décomposition d'algues vertes et de matières organiques. Dans la mesure où il y a un mort dans ces circonstances-là, il doit y avoir des analyses de sang sur la victime et l'analyse des tissus pulmonaires qui permettraient d'en savoir plus sur la réalité de l'intoxication à l'hydrogène sulfuré.
Le procureur de la République de Brest affirme qu'une autopsie sera bien pratiquée sur le jeune homme de 18 ans. C'est la mère de toutes les batailles municipales. Paris, enjeu stratégique pour la majorité face à Anne Hidalgo. Ils sont trois marcheurs sur la ligne de départ. Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, est donné favori. Cédric Villani, mathématicien devenu député. Hugues Rançon, le moins connu, il est vice-président de l'Assemblée. Ils vont tous passer devant la Commission nationale d'investiture de la République en marche, qui devra les départager après les avoir écoutés une heure et demie chacun aujourd'hui. Karine Bécard.
Les 16 membres de la Commission nationale d'investiture auront un objectif. Trouver parmi les trois candidats celui qui aura vraiment la capacité à rassembler du centre-gauche au centre-droit pour espérer gagner Paris. Voilà pourquoi Benjamin Griveaux a dégainé dimanche, deux jours avant son audition devant la commission, une tribune signée par une trentaine d'élus, des socialistes, d'anciens républicains et des centristes de l'UDI. C'est une opération plutôt réussie. En revanche, ce sera plus compliqué pour Cédric Villani qui, certes, a su attirer des gens derrière lui, mais essentiellement issus de son propre camp, comme l'ancien ministre, par exemple, Mounir Bajoubi. Reste Hugues Rançon, qui met en avant ses réseaux chiraciens et sa proximité avec Anne Hidalgo, mais ça ne sera probablement pas suffisant parce que tout le monde dans la majorité s'attend à la désignation de l'ancien porte-parole du gouvernement et ce, dès demain mercredi, puisque la CNI, qui veut prouver qu'elle a un peu d'autonomie vis-à-vis de l'Élysée, ne devrait pas reculer.
Et pour Lyon, ni la Commission ni Emmanuel Macron n'ont encore tranché. Le président, qui a vu Gérard Collomb et son rival de la métropole, David Kimmelfeld, les appelle à agir ensemble. Le Tour de France, quatrième étape aujourd'hui entre Reims et Nancy, 213 km avec une arrivée au sprint. Et avec ses 20 secondes d'avance, Julian Alaphilippe conservera-t-il le maillot jaune décroché hier à Épernay sur le dos d'un Français pour la première fois depuis 5 ans. Ça valait bien une petite fête avec l'équipe de Seninck Quick Step en rentrant à l'hôtel. Xavier Monferrand y était pour France Inter.
Même sur le parking d'un hôtel, le long de l'autoroute, un maillot jaune vaut bien quelques coupes, surtout à Reims.
Encore une ou ?
De toute façon, ça va se boire. Hein.
Allez, les gars, moi je prends un bien plein, tu vois.
Santé. Félicitations. Toute l'équipe, chapeau.
Un instant d'ivresse pour Julian Alaphilippe et son équipe, sans lâcher prise, d'autant qu'il reste plus de 3000 km à parcourir. Et qui dit champagne, dit petit discours en anglais pour se faire comprendre de tous.
Rich.
For sure, today I will never forget again. It's a really special day. I'm really happy. Enjoy the champagne tonight. The tour has just started. Thank you.
Et avant d'aller se coucher, Julian Alaphilippe a pu tester son nouveau guidon, tout jaune, faire une roue avant avec son vélo façon Peter Sagan et poser pour la photo avec son beau maillot. Oui, pour Julian.
Ça fait des longues journées. Hein.
Reims, Xavier Monferrand, France Inter.
Voilà, alors on verra s'il arrive de nouveau en tête ce soir. Ils boiront probablement pas le champagne tous les soirs avec
la
son
Mirabelle.
Équipe. Hein, tout de même. Ah oui, de la Mirabelle en arrivant voilà. À Nancy, peut-être. Rendez-vous en tout cas au départ de cette quatrième étape, Reims-Nancy, à partir de midi. Là, on ne sait pas du tout quel sera le prochain rendez-vous de Neymar avec le PSG. Il est toujours à Rio. Il a séché l'entraînement hier avant la reprise du championnat en août, ce qui lui a valu une lettre de remontrance salée du club et une interview de Leonardo, directeur sportif dans Le Parisien ce matin, qui dit en substance que la porte est ouverte. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Florence.
On savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre le Brésilien et le PSG. Là, c'est plus que ça.
Ouais, on a envie de dire qu'on ne reverra sans doute plus Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'est le souhait du joueur, on le sait depuis un petit moment, on le sait depuis le mois de mars, on va dire. Et puis le souhait également du Paris Saint-Germain, les dirigeants du PSG qui, vous le disiez, ont constaté hier l'absence de la star brésilienne lors de la reprise de l'entraînement. Il était resté au Brésil pour assister à la finale de la Copa América entre le Brésil et le Pérou, alors qu'il n'y avait aucune autorisation de la part du PSG pour une absence prolongée. Neymar, communiqué hier soir, le PSG déplore cette situation, annonce qu'il va prendre des mesures appropriées qui en découlent. Alors Neymar qui quitte Paris, ça peut prendre quand même un petit peu de temps parce que ça va pas se faire en un jour, c'est ce que Leonardo dit dans les colonnes du Parisien ce matin, mais ajoute-t-il, la position est claire pour tous les participants. On sait que Neymar veut quitter Paris, il est intéressé par un retour à Barcelone. Barcelone. On rappelle qu'il a joué là-bas entre 2013 et 2017. Mais il faut trouver un accord. Il est sous contrat, Neymar, avec le PSG jusqu'en 2022. C'est pas simple. Forcément, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et c'est pour ça, Florence, que ça peut prendre beaucoup de temps.
Et on a une idée de son point de chute, à part Barça? Parce que Barcelone n'est pas intéressé
officiellement. Lui, il veut aller au Barça. Et vous savez, quand Neymar veut aller quelque part, faut pas...
Il finit par y arriver.
Voilà, il finit par y arriver.
Très bien, merci Cédric Guillou du service des sports de Radio France. Blanche-Neige est un jeune homme, le prince est une femme et les nains sont bien plus que sept. Le Blanche-Neige donné au festival d'Avignon, vous l'aurez compris, n'a rien du conte originel. Mise en scène par Michel Raskin et écrit par Marie Dilasser. La pièce est caustique, nous dit Stéphane Capron. Elle fait rire autant les adultes que les enfants.
Marie Dilasser a choisi d'inverser tous les codes du conte en réécrivant cette Blanche-Neige du 21e siècle. Elle questionne le genre, l'identité, elle introduit une énorme différence d'âge entre le prince et Blanche-Neige et met beaucoup de féminisme dans son écriture. C'est ce qui a séduit le metteur en scène Michel Raskin.
Ça parle du monde d'aujourd'hui, ça travaille sur le genre de la farce. Alors c'est vrai qu'il y a le conte de Grimm qui est la matrice. Quand on s'intéresse à Blanche-Neige, il faut transiter par Walt Disney. C'est une œuvre picturale absolument sublime. Un petit peu à l'ancienne maintenant. Évidemment, la morale et le personnage de Blanche-Neige est absolument insupportable. Il fallait donner un grand coup de pied là-dedans. Si on décide de s'adresser au jeune public et au public dans son entier avec des contes d'aujourd'hui, évidemment, on en passe par le féminisme et l'écologie. Sans aucun doute, on n'y échappe pas.
Sur le plateau, il n'y a pas sept nains. Ils sont 101, représentés par des marionnettes imaginées par Claire d'Anquoine. Le nain qui revient le plus souvent dans l'histoire s'appelle Lèche-Botte. Blanche-Neige est un personnage féministe, libre, qui menace le prince de le quitter pour aller rejoindre Monsieur Seguin, le héros d'Alphonse Daudet. La pièce est totalement désopilante, une vraie réussite dans un décor qui renvoie au fondement du théâtre de Tréteaux.
Non, ce ne sont pas des dalmatiens, mais
non,
bien
c'est des nains.
Des nains.
Voilà, Blanche-Neige revisitée.
Histoire d'un prince jusqu'au 12 juillet au Festival d'Avignon, puis en tournée dans toute la France ensuite. Et si vous voulez des idées de spectacles à aller voir à Avignon, on vous en propose 9 formidables dans le off sur franceinter.fr.
Voilà, chacun se reconnaîtra dans cette pièce. Donc Blanche-Neige, elle est 101 nains, c'est ça? Il est 8h17.